Bonjour à tous, ça y est, le timing est là, on commence, c'est le début du culte, on est tellement heureux d'être ensemble ce matin. Est-ce que je peux entendre un peu de bruit dans la salle? Est-ce que vous pouvez applaudir pour dire bonjour à tous les internautes qui sont là? Voilà, on est tellement heureux d'être ensemble. À tous les internautes, merci d'être avec nous ce matin, merci de venir nous rencontrer, merci de venir et d'avoir choisi de passer du temps avec nous. Je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, j'ai envie de vivre quelque chose ce matin. Et s'il y a quelqu'un qui a envie de vivre quelque chose ce matin, vous avez envie de vivre quelque chose vraiment? Ouais, je vois des têtes qui bougent. Et je crois que Dieu a en réserve pour nous de multiples trésors. Et ce matin, il nous dit, mais viens chercher ce trésor. Viens dans la présence de Dieu. Je vous lis simplement ce texte qui est dans Jean 1, 12 et qui nous parle de Jésus. Et ce texte nous dit, certains pourtant l'ont accueilli en parlant de Jésus. Ils ont cru en lui. Et à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une essence naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, envoyé par son Père, plénitude de grâce et de vérité. Et ce Jésus qui était présent il y a 2000 ans, vit encore aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre amen à ça? Jésus est vivant. Amen. Et Jésus vit encore aujourd'hui et c'est pour cela qu'on se réunit, parce que nous avons un Dieu vivant et vrai. Alors ce matin, je vous encourage, venez, approchez-vous, accueillez-le, parce qu'il est là, il a tout en réserve et c'est à nous de venir saisir ce repas qu'il a mis à disposition pour nous. Je crois que Dieu va nous bénir. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble, on va présenter ce moment et on va se laisser conduire ce matin. Seigneur, c'est avec tellement de reconnaissance dans le cœur, Seigneur, de comprendre que tu as fait de nous tes enfants. À tous ceux qui accueillent Jésus-Christ, tu fais d'eux des enfants de Dieu. Et Seigneur, ce matin, en tant qu'enfants, nous approchons du Père pour saisir, pour vivre, pour reconnaître encore qui est Dieu. Et nous croyons ce matin que tu as des choses en réserve pour nous parce que tu es vivant. Parce que Seigneur, tu n'es pas limité, parce que tu as des choses à nous donner ce matin. Tu as des promesses à nous rapporter. Et Seigneur, ma prière, c'est que chaque cœur puisse être disposé, disponible pour recevoir le message que tu vas lui donner. Nous croyons dans la toute-puissance de Dieu qui est capable d'agir et de transformer des cœurs ici et derrière les écrans. Seigneur, tu agis encore aujourd'hui, alors viens manifester ta présence. Bénis ce temps de louange, de prédication. Conduis-nous encore plus loin à te connaître. Et Seigneur, que ton esprit nous conduise dans tout ce que nous allons vivre. Merci Jésus. Amen.
Amen. Est-ce qu'il y a un peuple de graciés ce matin dans cette pièce? Est-ce qu'il y a des gens qui savent qu'ils sont au bénéfice de la grâce de Jésus ce matin? C'est ce qu'on voudrait chanter. Vous savez, c'est important de se proclamer les vérités de la parole de Dieu pour nos vies. Vous savez, on dit que répéter un mensonge, souvent, ça devient une vérité pour les gens. Mais nous, en tant que peuple de Dieu, qui croyons que la Bible est la vérité, on a besoin de se la proclamer à notre âme. Alors ce matin, je voudrais qu'en tant que gracié, on vienne en disant « Oui, Seigneur, tu m'as libéré. Oui, tu m'as sauvé du péché, pas à cause de moi, mais à cause de ce que tu as accompli. » Alors est-ce que je peux vous inviter, ceux qui le peuvent, à vous mettre debout? On va prendre le chant « En toi, je sais qui je suis. » Nous sommes le peuple de Dieu par la grâce de Jésus qui a donné sa vie. Amen. En toi, je sais qui je suis.
De Dieu, je suis à lui.
ce matin.
Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis.
Je suis choisi.
Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis.
Dis-le à ton âme, je suis choisi.
Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis.
Il m'a libéré. On veut entendre vos voix.
Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis ami.
Et dans sa maison,
dans sa maison j'ai trouvé.
Qu'on le croit ce matin que nous sommes à lui, que nos noms sont inscrits dans son livre. On va prendre un nouveau chant ce matin qui dit « Je ne vis que pour toi ». Ce chant nous dit que parfois on peut s'agiter dans tous les sens et on a l'impression que Dieu il est dans le silence. On peut parfois courir dans tous les sens et avoir peur, et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec l'actualité. Et on peut commencer en tant que chrétien à s'agiter dans tous les sens, à être pris de panique alors que Jésus règne. Alors que Jésus n'est pas pris au dépourvu, mais il veut nous inviter ce matin, comme PS nous l'a rappelé, à nous approcher de lui. Il veut qu'on apprenne à lâcher prise. La foi, c'est pas voir forcément les choses, c'est de croire que même si on ne comprend pas ce qui se passe avec nos yeux, Dieu règne, Jésus est à nos côtés et il nous tient par la main. Et c'est ce qu'on veut chanter ce matin. Je ne vis que pour toi. Vous allez voir, ça s'apprend tout seul.
Mon cœur s'agitait, tu restais dans le silence. Je frappais le vent, tu veillais avec patience. Je veux lâcher prise, viens briser mes résistances. Je deviens meilleur quand je m'abandonne. Je ne vis que pour toi. Je choisis de te suivre. Je ne vis plus pour moi. Sans relâche ici-bas, je ne vis que pour toi. Je ne vis que pour toi. Quand rien n'a de sens et que je ne comprends pas, oh, est à toi pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi pour l'éternité.
Ce matin, qu'on soit dans cette salle ou qu'on soit sur internet, qu'on puisse prendre un temps pour louer, élever et dire: Seigneur, oui, je veux vivre que pour toi. Oui, j'ai peut-être trébuché cette semaine, oui, peut-être ça a été difficile, j'ai vécu des choses où je me suis senti accusé, acculé dans mes défenses, mais ce matin je veux te dire, Seigneur, que quoi qu'il en coûte, je veux vivre pour toi, je veux m'accrocher à toi. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin? On est dans la présence du roi des rois. C'est pas un Dieu mort que nous venons célébrer, mais c'est celui qui règne, celui qui se fait particulièrement proche de chacun d'entre nous. Est-ce qu'on peut élever la voix tous ensemble ce matin pour dire: Seigneur, avec nos propres mots, je veux m'accrocher à toi.
Thank you.
dans ce lieu ce matin avec un fardeau de culpabilité sur tes épaules. Tu te dis comment ce Dieu qui est si grand peut s'intéresser à moi alors que j'étais tellement si bas. À cause de mes fautes, de mes erreurs, tu te dis je suis pas digne ce matin. Le Seigneur te rappelle que ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de lui. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux pour qui tu es. Il t'a créé à son image. Délaisse la culpabilité ce matin et dépose-la au pied de la croix où Jésus a payé le prix fort pour toi. Tu peux sortir libre de ce lieu ce matin en déposant, en croyant qu'il est ton sauveur, qu'il est celui qui a pris le prix fort pour que tu puisses être appelé son enfant. Le Seigneur t'invite à la liberté ce matin. Alors abandonne-toi, fais-lui simplement confiance. Crois que sa parole est la vérité pour ta vie. N'écoute pas tes sentiments, n'écoute pas tes sensations, mais crois qu'il est celui qui t'aime et qui a donné sa vie à la croix pour toi. En lui, tu peux être plus blanc que la neige. Toutes tes souillures, toutes tes erreurs, toutes tes fautes, Jésus les a pris sur la croix. Pour que tu puisses être libre ce matin. Alors entre dans ce temps d'abandon et de confiance. Il est ton Dieu, celui qui t'aime.
Ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre. Ta voix, Seigneur, tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi.
chanter une pensée. Cette pensée, elle est, me semble-t-il, inspirée du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. Et je crois qu'elle s'adresse à quelqu'un qui est peut-être même au-delà de la salle où nous sommes dans, en culte pour l'instant. Et je pense qu'elle s'adresse à l'une ou l'autre, plusieurs personnes d'ailleurs. Et notamment une personne qui pense la chose suivante. Cette semaine, j'ai marché dans la rue et je me suis dit, c'est cette personne qui se dit ça, je fais partie de la foule des anonymes, des inconnus. Nous sommes dans un temps de grisaille, nous sommes masqués, mais est-ce que nous n'avons pas toujours été masqués ? Et cette personne se dit, mais que ma vie est vide. Mais est-ce que la vie est vraiment vide comme ça pour tout le monde ? Est-ce que c'est ça la vie ? Oui, tu es capable de ressentir des joies, mais là actuellement tu t'interroges profondément et tu te dis, mais à quoi ça sert la vie ? Et tu es vide, vide, vide. Alors tu te tournes vers le ciel, tu dis, ce ne sont que des nuages, ce n'est que de la grisaille. Mais aujourd'hui, Dieu, le Créateur, veut te parler à toi particulièrement et te dire la chose suivante. Oui, tu es vide. Et tu es vide pourquoi ? Parce que tout simplement, tu n'es pas en relation avec ton Créateur. Parce que tu as été créé pour être en relation. Comme on a besoin de manger, de respirer, de marcher, eh bien on a aussi besoin d'être en lien avec Dieu, le Créateur. Et ce Créateur veut te parler à toi expressément, maintenant, et te dire « Non, non, c'est bien pour toi. Ne crois pas que ce soit une voix comme ça qui te tombe. C'est bien pour toi. » Et Dieu te dit, tu ne me trouveras pas en regardant le ciel physique. Mais par contre, si tu regardes à l'intérieur de toi, si tu te poses et si tu dis, ok, tu existes, alors montre-le-moi, eh bien, si tu fais cela, tu verras que Dieu, ton Créateur, va te parler. Alors bien sûr, là maintenant, ça te paraît absolument incompréhensible et tu dis, non, ça ne sert à rien, ça ne marche pas comme ça. Eh bien, Dieu, ton Créateur, te dit, si, ça marche comme ça. Puisqu'il t'a créé pour être en relation. C'est comme s'il y avait une connexion entre toi et lui qui est pour l'instant déconnectée, mais hop, il peut remettre la connexion. Mais il faut que toi, tu veuilles remettre la connexion, c'est surtout ça. Alors, dis-toi que Dieu veut te parler. Et dis, ok, Dieu, tu veux me parler, eh bien parle-moi cette semaine. Et tu verras alors si ce vide est le même. Non, parce qu'il va disparaître. Tu verras alors que ce n'est pas le ciel gris physique qui importe, mais c'est un soleil que Dieu veut mettre dans ton cœur. Tu verras.
Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la grâce de m'appuyer sur toi. Tu entends mon cri, ton cœur plein d'amour, viens à mon secours et souffle en moi ta vie. Bien plus haut que les cieux, plus profond que les océans, ton amour est plus grand. Ta grâce est infinie, ta bonté reconstruit ma vie, ton amour est plus grand. Si je perds pied sous l'épreuve, ta main saisit mon bras. Tu as
Dans cet état d'esprit, dans là où Dieu nous amène, à comprendre que sa bonté reconstruit notre vie. Et s'il est là, c'est lui qui a cette capacité à construire et reconstruire notre vie, à nous accompagner au quotidien. Et ce matin, on a le privilège et l'honneur de pouvoir présenter un enfant. La Bible nous encourage, non pas à baptiser les enfants et nous baptisons, on l'a vu la semaine dernière, les personnes adultes capables de croire et de confesser et de parler de ce qu'ils ont vécu. Mais la Bible nous donne de nombreux exemples d'enfants qui ont été présentés à Dieu. D'enfants qu'on a présentés et pour lesquels on a prié. Et en particulier avec l'exemple de Joseph qui a amené Jésus, qui a été présenté au temple. Et avec les pies, notre souhait ce matin, c'est de pouvoir présenter un enfant et de pouvoir plus que de le présenter, mais pouvoir prier pour lui. Et on ne peut pas simplement être une ou deux personnes, mais engager l'ensemble de la communauté à prier pour cet enfant et à prier pour ses parents. Je vais demander à Romuald et Vizantia de bien vouloir s'approcher. Et on a la joie d'avoir Yada Shemuel qui est avec nous. Voilà, si vous voulez bien vous mettre ici. On va garder les distances. Ils sont pas magnifiques. C'est une énorme responsabilité que d'être parent. Et si on portait tout seul, bien souvent il y aurait des échecs. Mais une chose est sûre, et c'est ce qu'on a entendu dans ce qui a été partagé dans ce chant, c'est que l'amour de Dieu construit nos vies. Votre responsabilité en tant que papa et maman, elle est lourde. Mais le choix que vous avez fait de vouloir présenter votre enfant ce matin, c'est comme un engagement à dire: Seigneur, tu me donneras les forces pour faire face à cette réalité. J'ai 4 enfants, je sais de quoi je parle. Mais je sais que chaque fois que les difficultés ont été là, Dieu a été notre appui au quotidien. Que ce soit dans le quotidien et que ce soit dans le cœur pour élever les enfants. Et je bénis Dieu de ce que ce matin vous avez fait ce choix, que nous puissions prier ensemble. La prière n'est pas magique, mais la prière c'est s'adresser à Dieu et dire: Seigneur, on a besoin que ta bénédiction repose sur nous. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Je vais demander à Freddy, un des anciens, de bien vouloir nous rejoindre. Et je vais demander aussi à l'Assemblée de bien vouloir se mettre debout et de pouvoir prier ensemble pour Yada Shemuel. J'ai bien prononcé ? Yada Shemuel ? Super.
Seigneur, tous ensemble, voulons te remercier pour Aïda. Nous te la présentons ce matin. Nous te la confions, Seigneur, à ta grâce. Tu l'entoures, Seigneur, de ton amour. Savons que tous ces jours sont déjà inscrits dans ton livre. Et Seigneur, nous voulons vraiment te demander qu'il y ait d'abondantes bénédictions sur sa vie. Et sur ses parents aussi, Seigneur, te confions son papa, sa maman. Donne-leur sagesse, intelligence, discernement, connaissance pour instruire cette jeune vie dans toutes tes voies. Seigneur, que ses parents soient un modèle pour cette petite, Seigneur, et qu'une fois grande, Seigneur, elle puisse te servir, qu'elle puisse te glorifier. Seigneur, c'est là ce que nous voulons ce matin, Seigneur, te dire merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bénédiction sur cette famille. À toi la gloire. Amen. Seigneur, vous
bénissez. Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort, les encourager ? Et peut-être garder en tête ce qu'on vient de vivre et dire, peut-être vous ne les connaissez pas, mais vous engagez dans votre liste de prières, pour ceux qui ont une liste, à dire: je veux porter Yada Shemuel, je veux la porter en prière chaque semaine, chaque jour, et je veux porter ses parents. Et le faire non seulement pour eux, mais aussi pour chacun des enfants de l'épisode, chacun des enfants de l'EPI, ici les Pichoun, tous ceux qui travaillent parmi les enfants. C'est une énorme responsabilité. Mais nous ne sommes pas seuls. Dieu nous a donné le meilleur de tous les équipements. Amen. Amen. Merci pour votre prière, votre soutien. Il est important. Je profite de ce temps pour vous faire quelques annonces. Pour vous dire que la semaine dernière, nous avons vécu un énorme moment. Quelque chose d'extraordinaire à travers ces baptêmes. Et j'ai une petite photo à vous montrer, si vous voulez bien. Si on va pouvoir la voir ensemble, qui va nous rappeler ces 7 baptêmes que nous avons vécus la semaine dernière, qui nous ont amené vraiment à redécouvrir des témoignages extraordinaires. Voilà, comme ça, vous la voyez bien. Des témoignages extraordinaires, vous vous souvenez, de Marlène, de Darcial, de Léa, de Marie-Laurore, de Benjamin, de Gabriel, qui ont partagé leur cœur. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas vu le culte, à aller revoir le culte sur Internet. Vous aurez la joie d'avoir encore des témoignages qui sont vraiment bouleversants et encourageant. Alors, merci à tous ceux qui se sont investis pour la préparation de ce culte et on pense à ces baptisés. Je vous encourage vraiment à continuer à prier pour eux parce que quand on s'engage, on sait que derrière, c'est pas toujours évident. Et si je sais qu'il y en a qui voient de quoi je veux parler. Alors vraiment, on les bénit, on pense à vous les nouveaux baptisés, que Dieu vous bénisse abondamment. Et justement, en parlant de baptême, le cours sur les formations baptême va reprendre. Et peut-être que ça vous intéresse de dire, mais moi j'aimerais bien vivre ce qu'eux ont vécu. Et notre cheminement à l'église de l'Épi, c'est de mettre en place des formations baptême pour dire, mais pourquoi je me fais baptiser? Qu'est-ce qui me pousse à aller jusqu'au bout? Et la reprise aura lieu le 10 février en Zoom à 19h. Attention, c'est une remarque importante. Peut-être que vous n'êtes pas forcément, vous n'avez pas envie forcément d'aller jusqu'au baptême, mais vous avez besoin de prendre des cours, de pouvoir partager sur des vérités fondamentales sur lesquelles, dans lesquelles on croit. Vous pouvez également vous inscrire, même si vous n'allez pas jusqu'au baptême, mais ça permet aussi de réasseoir certaines choses que nous connaissons bien. Donc c'est ouvert aux futurs baptisés, mais également à ceux qui souhaitent avoir un temps de formation, un temps de partage avec les anciens, avec Yolande qui intervient, avec plusieurs personnes qui nous bénissent et qui vous bénissent. Alors n'hésitez pas. Pour cela, vous appelez le secrétariat avec le numéro de téléphone que vous connaissez, qu'on rappelle chaque dimanche. Et puis, vous nous rejoignez, vous nous donnez vos coordonnées et on vous mettra en relation avec ceux qui s'en occupent. Donc n'hésitez pas à contacter le secrétariat. Nous aurions besoin d'équipes de ménage. Et je le dis même pour nos internautes, si vous avez à cœur de venir nous aider, plus on est, moins on est engagé. Ce que je veux dire par là, c'est que plus on est, moins ça tourne régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, vous appeler le secrétariat en disant je peux te donner un dimanche, je peux te donner deux dimanches, mais surtout donnez-nous un coup de main, on en a besoin. De la même façon, on aurait besoin d'équipiers au niveau de la sono, au niveau de la vidéoprojection. Alors si ça vous tient à cœur, surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, on a besoin de vous. Et de toute façon, dans cette série Les uns les autres, sans vous, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. On est d'accord avec ça? On a besoin les uns des autres, n'est-ce pas? Bon, Michel nous en parlera un petit peu plus dans son message juste après. Enfin, une information importante. Vous savez que toute personne qui s'inscrit a une place réservée. Et si la personne, elle ne vient pas, alors pour nous, c'est compliqué à gérer. Donc, à partir de 10h10, si vous n'êtes pas ici à 10h10, alors je ne parle pas à vous, mais à nos internautes ou ceux qui arrivent parfois un petit peu en retard, eh bien, à partir de 10h10, on sera obligé de donner votre place à quelqu'un d'autre, parce qu'il y en a qui arrivent très tôt, parce que parfois la plateforme a été fermée, il n'y avait plus de place et des choses comme ça. Alors, s'il vous plaît, on vous engage vraiment, venez tôt, venez très tôt, venez entre 9h30 et 9h55. C'est tellement plus facile pour l'ensemble de l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour que vous soyez bien. Et j'en profite pour faire un immense honneur à toute notre équipe d'accueil, à tous ceux qui travaillent derrière, à toute l'équipe de ménage, à toute l'équipe de sono techniciens, à toute l'équipe de louanges, tous ceux qui, jour après jour, préparent ce culte pour que nous vivions encore plus près de Dieu. Une dernière annonce, j'aimerais vous passer une vidéo, et vous allez voir qu'elle ne me concerne pas des masses, mais vous allez comprendre par vous-même, on envoie la vidéo. Vous avez bien compris pourquoi elle ne me concerne pas énormément. Donc c'est ce rendez-vous pour les femmes, de la plus jeune à la plus âgée, le 20 février de 14h à 16h, une après-midi spéciale pour vous, pour passer du temps, vous encourager les unes les autres. Et on vous encourage à aller vous inscrire, il y a la plateforme Billets Web qui est disponible pour ça. Inscrivez-vous, participez, c'est un temps qui va être un temps béni. Je remercie toute l'équipe de Women's Day qui travaille derrière pour que ça fonctionne. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, ça sera sur Zoom, vous recevrez le lien par mail. Sans plus attendre, ça va, vous allez bien? Super, sans plus attendre, alors on va laisser la parole, est-ce qu'il y a un dernier chant? Non, on y va directement avec la prédication. Super, on va laisser la parole à Michel dans cette série de messages, les uns les autres. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure.
Merci au pasteur Pierre Samuel, Raymond Pierre, merci à Anne, merci à l'équipe d'accueil, merci à la technique et merci à tous ceux qui sont à pied d'œuvre pour nous permettre de vivre ce culte. Merci à vous qui êtes derrière vos écrans ou devant vos écrans pour nous suivre et profiter de ces moments qui font tant de bien. Ça fait plaisir de voir des vrais gens. Après toute une semaine passée derrière l'écran avec des réunions qui se sont succédées, Ça fait plaisir de voir des vrais gens. Vous savez que nous sommes des dizaines et des dizaines à servir, à travailler à gauche, à droite. Et merci beaucoup pour tous vos encouragements. Chaque semaine, nous recevons des petites cartes, des petits messages. Merci pour vos encouragements, ça fait tellement plaisir. Il y a des choses qu'on voit, et puis il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. J'ai reçu une carte de la part du président de l'association Entraide le Relais, Thierry Schuller, qui nous écrit et qui nous dit « Je suis très touché par le soutien apporté par l'EPI depuis plusieurs années à nos actions sociales. » En effet, des dizaines et des dizaines de membres de l'EPI ont participé à des actions sociales et je voudrais vraiment les en remercier, remercier tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont actifs, servent le Seigneur. Et tout cela, c'est un témoignage à la gloire de Dieu. Alors, l'actualité révèle entre autres la nécessité du lien social, le besoin d'être en relation les uns avec les autres. C'est d'ailleurs l'objet de cette série qu'on a entamée il y a quelques semaines. L'isolement, l'éloignement, la distanciation nous rendent malades, chrétiens comme les non-chrétiens, parce que nous ne sommes pas faits pour vivre isolés, chacun de son côté. Nous sommes faits pour être et vivre ensemble. Plusieurs d'entre vous m'ont dit ces derniers jours, vous me manquez. Et ça, c'est plutôt un bon signe. Parce que l'Église, c'est la grande famille, et tous ceux qui appartiennent à l'Église, tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, appartiennent à tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Ce n'est pas de moi, c'est Floyd McLean, un grand missionnaire que nous avons connu avec Evelyne. L'Église, qui est le lieu de socialisation par excellence, nous aide à vivre cette dynamique de l'interdépendance. Ça veut dire que nous dépendons les uns des autres. Alors comment nous accueillir, comment nous supporter les uns les autres? C'est justement l'objet de ce temps de méditation avec vous. D'abord, s'accueillir les uns les autres. On va faire une lecture dans la lettre aux Romains. L'apôtre Paul écrit aux Romains, et d'abord peut-être un mot sur cette lettre. On en parle très souvent, très régulièrement ici à l'EPI, et vous dire quand même que c'est une lettre qui est très importante. Elle est étudiée dans toutes les écoles bibliques parce qu'elle contient vraiment les fondements de la vie chrétienne. Elle est la plus importante, elle est la plus longue, elle est la plus riche en matière d'enseignement concernant justement la foi chrétienne. Et là, l'apôtre Paul y expose de manière suivie l'évangile qu'il prêche et qu'il enseigne avec cette punchline, c'est-à-dire une phrase choc, qui est celle-ci, qui résume toute la lettre de Paul aux Romains, Romains chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. » L'Église de Rome était constituée de chrétiens d'origine juive, les judéo-chrétiens, et d'origine non-juive, qu'on appelait les goïm. En hébreu, ce sont les nations. Ou bien, vous avez quelquefois dans vos Bibles les gentils. Ce n'est pas des gens qui sont gentils, mais les gentils, c'est un mot qui vient du latin et qui veut dire les nations. Et ainsi, on voit le plan de Dieu se dérouler dans la lettre aux Romains, qui montre que juifs comme non-juifs, et toutes les nations, nous sommes destinés à rencontrer le Seigneur, à être avec lui et à faire partie de cette grande famille des enfants de Dieu. Alors les uns étaient en conflit avec les autres en raison de leurs origines différentes. Et c'est justement dans ce contexte de tension que l'apôtre Paul écrit en leur demandant de s'accueillir les uns les autres comme Christ les a accueillis. Alors, au-delà de ces premiers destinataires, nous sommes aussi destinataires de cette lettre. Et cette lettre parle aujourd'hui aux chrétiens du 21e siècle. Romains chapitre 15, verset 5, après vous avoir introduit dans le contexte de cette lettre, Romains 15, verset 5. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'emphase va être mise sur le verset 7. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueilli pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, doxa, l'honneur de Dieu, le miraculeux de Dieu, parce que l'Église est un miracle. Et nous sommes chacun pour notre part des petits miracles ambulants. Lorsqu'on pense à tout ce que Dieu a fait dans notre vie, d'où il nous a tirés, comment il nous a parlé, comment il nous a interpellés, comment il nous a attirés à lui, c'est du miracle. La gloire de Dieu. Alors le verbe accueillir ici, proslambano, c'est du grec, est ici sous une forme intensifiée. Ça vient du verbe lambano qui veut dire prendre et de pros, vers, contre, pour, auprès. Accueillir, c'est prendre avec soi. Ceux qui parlent l'allemand et qui ont des Bibles allemandes encore chez eux, annehmen, prendre avec soi. Et là, Paul utilise ce verbe pour accueillir, accueillir à soi, accueillir avec un soin particulier. Il l'emploie aussi lorsqu'il va interpeller son ami Philémon, à qui il va demander de reprendre ce serviteur qui s'était enfui de chez lui. Il écrira dans Philémon 17, « Reçois-le, proslambano, comme moi-même. » Accueillir avec un soin particulier. Dans son livre « Les uns les autres », Alfred Kuhn écrit « Accueillir, c'est accepter l'autre tel qu'il est et le prendre avec soi. » Autrement dit, c'est accorder une place à l'autre, accorder de l'importance, et c'est en fait une marque d'amour. Et la question de l'accueil, elle est fondamentale au sein de l'Église. D'ailleurs, c'est une chose importante aussi au niveau de l'Évangile. C'est la base de l'Évangile. Et en ce moment, vous le savez, on vous accueille avec un soin tout particulier parce qu'on pense à votre santé, on pense à vous protéger, on pense à votre bien. Donc, vous l'avez remarqué, et c'est important de bien suivre les consignes qui vous sont données par toute notre équipe d'accueil qui, comme l'a dit le pasteur Pierre Samuel, se coupe en quatre pour vous accueillir de la meilleure manière possible. On ne peut pas se faire de bise ni se serrer la main en ce moment, mais le regard et un geste en disent long. On est tellement heureux de se voir. L'accueil est au cœur de l'Évangile. Jésus a dit, Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos pour vos âmes. » Il est dans l'accueil. Et ce matin, il est celui qui nous accueille. Avant même de l'accueillir, quelquefois on dit « Seigneur, on t'accueille », mais c'est lui qui nous a accueillis le premier. C'est lui qui a fait la démarche. Il nous a aimés le premier. Ce matin, sache que tu es aimé de Dieu et qu'il va tout mettre en œuvre. Il a tout mis en œuvre déjà, mais il mettra tout en œuvre pour t'attirer à lui et te convaincre qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, bienvenue ce matin auprès du Seigneur. Donc, première chose, première piste pour pouvoir accueillir et s'accueillir mutuellement, c'est déjà de s'accueillir soi-même. Parfois, notre difficulté à accueillir l'autre tel qu'il est vient du fait que nous ne nous sommes pas acceptés nous-mêmes tels que nous sommes. Ça crée des difficultés. Vous avez peut-être du mal à accepter qui vous êtes. Et j'aime beaucoup l'introduction de ce culte qui était marqué par ce chant « En toi, je sais qui je suis ». Mais peut-être que vous ne le savez pas vraiment. Peut-être que vous n'êtes pas accepté tel que vous êtes. Vous n'avez pas accepté votre identité, votre nom, votre prénom, votre physique, votre taille, votre morphologie, peut-être votre caractère. Vous avez du mal à vous accueillir vous-même. Et évidemment, ça a une incidence dans votre relation aux autres. Peut-être est-ce votre histoire, votre passé, votre sexualité, votre origine, votre couleur de peau. Peu importe, ce matin, Dieu vous invite à vous accueillir parce qu'il est votre créateur. Non, vous n'êtes pas un accident. Non, vous n'êtes pas une erreur de la nature. Dieu a voulu que vous soyez là. Et Dieu vous veut du bien. Dieu veut vous accueillir. Je vous invite à vous accueillir. C'est même plus fort que le verbe accepter. Accepter, c'est prendre. Mais accueillir, c'est prendre avec soi. Ça va plus loin. Accueillez votre histoire, votre passé. Parce que tant que nous n'avons pas résolu la question de l'acceptation, de l'accueil de soi, nous allons soit envier les autres parce qu'ils sont ce que vous ne voulez pas être, soit vous allez les mépriser. Parce que, alors, je reprends. Tant que nous n'avons pas résolu la question de l'acceptation de nous-mêmes, nous allons soit envier les autres parce qu'ils sont ce que nous voudrions être, plutôt, hein, soit, ça va être le contraire, nous allons les mépriser parce qu'ils nous ressemblent. Merci pour la traduction pour nos frères et sœurs arméniens. Le fait de savoir, de se savoir accueilli par Dieu, contribue à s'accueillir soi-même. Et ce qui m'a beaucoup aidé à un moment donné, vous savez, quand on passe par l'adolescence, on passe souvent par des crises, on a du mal à s'accueillir, à s'accepter, on a du mal avec notre histoire, qui est-ce que je suis ? On est en quête de sens, on est en recherche. Et ce qui m'a beaucoup aidé, puisque je me suis converti à l'âge de 14 ans, c'est la lecture du psaume 139. Un psaume remarquable, où David expose le fait qu'avant même sa naissance, dans le sein de sa mère, et Dieu savait déjà qui il était, et ses voies étaient déjà tracées, ses jours étaient comptés, et Dieu veillait sur lui. Dieu est notre Créateur. Et aujourd'hui, vous pouvez vous accueillir tel que vous êtes, parce qu'il peut aussi, et il veut, devenir votre Père. En toi, je sais qui je suis. En même temps, nous ne sommes pas parfaits. C'est une autre réalité. Nous sommes des pécheurs et nous avons besoin de reconnaître nos limites, nos fautes et notre péché. Mais aujourd'hui est une occasion de vous accueillir comme le Christ vous a accueilli. Et je pense à ce cantique de Charlotte Elliott qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. » Et je pense que ce matin, il y a quelqu'un qui a besoin de venir à Dieu. Quelqu'un qui a besoin de dire oui, j'ai besoin de voir qui tu es, j'ai besoin de réaliser, j'ai besoin d'être en connexion avec toi. Nous sommes créés pour être en connexion les uns avec les autres, mais c'est très difficile d'être en connexion les uns avec les autres si d'abord nous ne sommes pas en connexion avec Dieu. Et de cette connexion, de cette relation avec Dieu, découlera une relation authentique, sincère, profonde les uns avec les autres. Deuxième aspect, deuxième piste, c'est de reconnaître aussi que nous avons besoin d'aide. On est parfois tellement fier, tellement orgueilleux, et on a du mal à reconnaître qu'on a besoin d'aide. Paul motive les chrétiens de Rome pour qu'ils vivent les uns avec les autres et pour que tous ensemble, ils rendent gloire à Dieu. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Nous sommes destinés à vivre et servir ensemble en mettant en commun nos dons, nos talents, nos ressources, nos compétences, nos forces. Ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus intelligent. Parce qu'il y a un petit peu plus dans plusieurs cerveaux que dans un cerveau tout seul. On appelle ça aujourd'hui l'intelligence collective. Et moi, j'aime bien cette expression, intelligence collective. Nous ne sommes pas autosuffisants et nous ne le serons jamais. Un proverbe africain dit « Il est impossible d'éplucher une banane avec une seule main ». Moi, j'aime bien ce proverbe. Et nos frères et sœurs africains ont des expressions très concrètes qui parlent. C'est impossible d'éplucher une banane avec une seule main. Dans son livre « Soyez des hommes », Jérémy Poulet, le pasteur qu'on a accueilli il y a quelques mois ici à l'Épi, écrit ceci, « L'homme a besoin d'aide, non seulement pour bâtir, mais pour être et vivre. Tant que tu n'es pas en mesure de reconnaître que tu as besoin d'aide de quelqu'un de semblable à toi, tu n'es pas en mesure de l'accueillir. » C'est fort. Hein ? Il y a quelque temps, un de mes voisins m'a interpellé. On venait de terminer un travail ensemble. Et puis à la fin de ce travail, il me dit, « Michel, je vais te dire quelque chose. Tu nous aides régulièrement et constamment tous les voisins ici, mais tu ne nous donnes jamais l'occasion de t'aider. Alors, je me suis laissé interpeller. Puis j'ai réfléchi. Je dis oui, c'est vrai, finalement. Alors, je vais organiser une session de travaux et je vais inviter les voisins. Donc, on a organisé tout cela. Et puis, les voisins sont venus pour m'aider parce que j'écoute ce qu'on me dit et j'apprends. Et c'est comme ça qu'on progresse. On a besoin les uns des autres. Et alors, ce qui m'a frappé, à la fin de notre travail en commun, ce qui m'a frappé, c'est de voir la joie, le bonheur qu'il y avait de m'aider. Et je me suis dit, finalement, tu les as privés de te rendre heureux et d'être heureux avec toi. Et toi, tu t'es privé de voir le bonheur à travailler et à vivre quelque chose de fort ensemble. Eh bien, on va remettre ça. On va remettre ça. C'est parce qu'on a besoin les uns des autres. Ce n'est pas un aveu de faiblesse que de demander de l'aide. Je crois que c'est simplement de l'humilité. C'est de l'humanité. On est humain. On a besoin d'aide. Et c'est aussi de l'intégrité. Pour accueillir de l'aide, il faut être en confiance. Et la confiance, elle se développe dans la relation. Puis on en arrive à devenir des amis. L'amitié entre voisins. À plus forte raison, l'amitié en Église. On ne peut pas être ami avec tout le monde, on ne peut pas être tout proche avec tout le monde, nous sommes trop nombreux, mais nous encourageons à l'épi, le travail en équipe, le service en équipe, pour qu'on puisse se rapprocher les uns des autres et connaître cette amitié. Puis une troisième direction, Paul le dira, accueillez-vous comme Jésus vous a accueilli. Alors comment est-ce qu'il nous a accueillis? Il suffit de se remémorer quelques scènes de l'Évangile, dans lesquels Jésus, par exemple, a accueilli les petits. Il a accueilli les pécheurs, Luc 15. Les religieux étaient scandalisés. Et cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux, c'est ce qu'on disait de lui. Et cela nous montre que Dieu est un père et qu'il met tout en œuvre pour accueillir ceux qui sont perdus. Il a accueilli les petits, les grands. Il a accueilli, il dira par exemple, « Laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas. » Il les prend dans ses bras, il les bénit. Et Jésus accueille les personnes malades, les désespérées, les incurables, les laissés pour compte. Et ceux qui étaient placés en quarantaine, les lépreux, il les voit, il leur parle et il les touche. Jésus accueillit de manière compassionnelle. Voyant la foule, il fut ému de compassion. Et il s'est souvent attardé auprès d'une seule personne. Alors là, on peut parler d'accueil personnalisé. Bartimée, Zachée et beaucoup d'anonymes. Il n'a pas hésité à faire des détours pour aller à la rencontre de la femme samaritaine, de l'homme de Gadara et de bien d'autres. Quand j'avais 14 ans, une missionnaire s'est installée dans notre cité. Et elle travaillait dans le cadre de notre paroisse. Et elle a ouvert un club d'enfants. Elle nous a accueillis, des pré-ados, des ados. Et je me suis converti au contact de cette missionnaire qui nous annonçait l'Évangile. Elle est devenue comme une maman pour mon frère Rolf et pour moi. Et régulièrement, elle venait nous chercher avec sa deux chevaux. C'était des moments remarquables. Elle a fait des détours pour nous emmener dans des rencontres et dans des réunions pour qu'on puisse grandir dans la foi. Et j'ai toujours apprécié ce fait de faire un détour, de prendre sur elle et de nous amener dans des rencontres et dans des réunions pour qu'on puisse grandir dans la foi. Jésus a accueilli avec la même écoute, la même bienveillance, petits et grands, pauvres et riches, hommes, femmes, jeunes, vieux, les gens simples comme les savants, sans préjugés et sans aucune discrimination. Jésus nous a accueillis alors qu'il n'y avait rien en nous d'accueillant. Il nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 5, verset 8. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors que nous étions encore loin de Dieu, il a fait le premier pas vers nous et il nous a accueillis. Il nous a pris avec lui. Dans son livre « Accueillez-les », Franck Alexandre présente toutes les facettes possibles de l'accueil dans l'Église en montrant que l'accueil est avant tout une question de cœur. Non seulement les portes de nos églises doivent être largement ouvertes, écrit-il, à ceux qui cherchent Dieu, mais nos cœurs doivent l'être aussi. C'est un plaidoyer pour un accueil inconditionnel à l'image de Jésus qui nous a accueillis de manière inconditionnelle. Il n'a pas dit d'abord tu vas faire ceci, ensuite tu feras cela, après tu prieras comme cela. Non, il nous a accueillis tels que nous étions. C'était avant McDonald's, hein? Venez comme vous êtes. Ce matin, je t'engage à venir tel que tu es. Deuxième aspect de la méditation ce matin, c'est se supporter les uns les autres. Et là, on va faire une lecture dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 2. « En toute humilité, écrit l'apôtre Paul, et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » Là aussi, c'est un verbe qui est très fort, le verbe supporter. Anekomai, qui fait partie du vocabulaire militaire, qui veut dire tenir sa position face à l'ennemi, supporter les coups, les attaques durant le combat, ne pas lâcher prise, encaisser, endosser, endurer, souffrir, tolérer. On retrouve ce verbe dans la bouche de Jésus, Matthieu 17, 17, lorsqu'il dit « Génération incrédule et perverse ». Le contexte, c'est qu'il descend de la montagne. Il y a eu ce moment de la transfiguration. Jésus était transfiguré, un moment de gloire. Pierre, Jacques et Jean voient tout cela. Ils descendent de ce monde de la transfiguration. Ils arrivent auprès des disciples, auprès de la foule. Et là, ils se heurtent à l'incrédulité de son entourage. Il dit, génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Parole difficile, hein? Mais ce n'est pas de l'impatience de la part de Jésus, c'est de l'indignation face à l'incrédulité de son entourage. Parce que malgré son amour, Jésus se sent un peu étranger, juste après l'expérience qu'il vient de faire, après le ciel sur la terre. Il ne peut s'empêcher de soupirer, un petit peu comme étranger. En toute humilité, toute douceur, patience, supportez-vous les uns les autres. Et ce discours, mes amis, dans le contexte de ce qui est partagé ce matin, c'est une véritable révolution pour la mentalité de l'époque. C'est John Wesley, un pasteur de réveil, 18e siècle, qui a fait remarquer la chose suivante. Ni les Romains, ni les Grecs n'avaient de terme pour humilité. L'idée leur était étrangère et tellement répugnante qu'ils n'avaient pas de mots pour la décrire. Ce terme a été créé par les chrétiens et probablement par l'apôtre Paul lui-même. Bien des termes, des expressions étaient créés par les chrétiens parce que ça n'existait pas. Par exemple, c'est le cas pour le mot « agapé », le mot « amour ». On connaissait l'amour physique, on connaissait l'amour humain, mais il n'y avait pas de mot pour l'amour de Dieu, « agapé », un amour sacrificiel. De même, pour l'humilité. C'est un mot composé qui désigne littéralement le fait de penser et de juger sans s'élever soi-même. Supporter notre humanité. Supporter son humanité. Nous sommes tous faillibles, nous sommes imparfaits. Et Jacques dira, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Nous sommes pécheurs sauvés par grâce. Et lorsque nos attentes sont trop grandes par rapport à l'Église, nous sommes souvent déçus. N'idéalisons pas la communion fraternelle. Nous restons des êtres humains. C'est le pasteur Dietrich Bonhoeffer qui a écrit sur la communion fraternelle. C'est un pasteur allemand qui a été exécuté parce qu'il s'était opposé au nazisme. Son livre s'appelle « De la vie communautaire ». Il écrit dans ce livre « Plus vite on abandonne l'illusion qu'une église doit être parfaite pour qu'on l'aime, plus vite on arrête de faire semblant et on commence à admettre qu'on est tous imparfaits et qu'on a besoin de la grâce. » Il dit « Voilà le commencement de la vraie communauté. Dans nos sessions de préparation au mariage, vous savez qu'il y a toutes sortes de formations à l'EPI, et dans ces sessions de préparation au mariage, nous recommandons aux futurs mariés d'avoir des attentes réalistes. Alors quelquefois, on leur dit « attendez-vous à des déceptions ». On fait bien de dire cela, non ? « Attendez-vous à des déceptions ». Parce que quelquefois, on idéalise tellement l'autre. Souvent, quand on a des papillons devant les yeux, c'est formidable, c'est merveilleux, et on pense que tout sera merveilleux toute sa vie. Non, attendez-vous à des déceptions parce qu'elles font partie de la vie. Vous savez, l'une des définitions du couple, la vie de couple, c'est l'art de supporter à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eus si on était resté seul. Supporter. Supporter comme Jésus. Et là, j'attire votre attention sur le fait de toujours centrer notre attitude, notre cœur, notre vie chrétienne sur Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. Et là, dans Hébreux chapitre 12 et au verset 1er, c'est un texte qui résume l'attitude de Jésus face à l'adversité, face à l'opposition. Il nous est dit ici, Hébreux 12, 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait, et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Jésus a été notre modèle, il est notre modèle de persévérance, d'endurance, il est allé jusqu'au bout. Par amour pour nous, il a supporté l'insupportable, la mort sur la croix. Il a porté non pas seulement la mort physique, parce que d'autres mouraient aussi physiquement sur la croix, mais ce qui a caractérisé sa mort sur la croix, c'est qu'il a porté nos péchés sur son corps à la croix pour nous libérer, nous pardonner et nous réconcilier avec Dieu. Alors la lettre aux Éphésiens, elle est adressée à l'Église, mais aussi elle est adressée en particulier à des maris, à des épouses, à des enfants, des parents, à des employeurs, à des employés. Et concrètement, cette lettre signifie « Marie, supportez vos femmes. Femmes, supportez vos maris. Parents, supportez vos enfants. Leur goût, leur musique, leur centre d'intérêt. Enfants, supportez vos parents. Le fait qu'ils soient parfois un peu en décalage. Old school, ringard. Supportez. » C'est ça que ça veut dire. Employeur, supportez vos employés. Si on est chrétien, je crois qu'il y a une grande différence entre un employeur chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas, et des employés qui sont là chargés de supporter les employeurs. Alors on peut se poser la question, faut-il absolument tout supporter ? C'est une bonne question. Faut-il absolument tout supporter de manière inconditionnelle ? Ou jusqu'à quel point est-ce qu'on peut supporter les choses ? Alors, il y a des personnes et des situations qui sont insupportables. Des gens et des choses impossibles à supporter sans subir des dommages dans notre personnalité ou même dans notre santé. Et parfois, c'est même notre environnement qui se trouve sérieusement menacé. Jésus n'a pas supporté les agissements des religieux et il l'a fait savoir. Il n'a pas supporté que les vendeurs du temple salissent l'honneur de Dieu. Il les a chassés. Et donc, il y a un équilibre à trouver, et c'est la raison pour laquelle on se pose cette question, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut supporter ? Je crois que c'est important d'avoir une lecture ce que j'appelle une lecture panoramique de la Bible, c'est-à-dire prendre en compte dans sa foi chrétienne l'ensemble de l'enseignement biblique, de tout ce que la Bible dit. La Bible dira « supportez-vous les uns les autres », mais elle dira aussi « avertissez-vous les uns les autres, exhortez-vous les uns les autres, veillez les uns sur les autres » et nous verrons dimanche prochain avec le pasteur Raymond Pierre « soumettez-vous les uns aux autres ». On lui a laissé le bon rôle. Je vais vous donner un exemple. Nos équipes d'accueil font le maximum en ce moment pour que nous ne tombions pas malades. Et par la grâce de Dieu, depuis le mois de mars dernier, personne n'est tombé malade. Donc, on vous demande de vous inscrire et on vous demande de respecter des règles. C'est pour votre bien, c'est pour vous. Alors, on peut parfois... oublier de s'inscrire, ça peut arriver. On peut arriver en retard, ça peut arriver. Mais si systématiquement vous vous opposez aux consignes, si systématiquement vous arrivez en retard, l'équipe d'accueil va vous dire un ou deux mots. Et ils ont l'autorisation de vous dire, mon frère, ma sœur, là, tu exagères. Pourquoi ? Parce que nous nous appartenons les uns aux autres et nous sommes redevables les uns aux autres. Voyez ? C'est ça la communion fraternelle. On ne peut pas tout accepter de manière inconditionnelle, sinon on finit par devenir des lavettes ou des serpillères que plus personne ne respectera. Ou on finit par exploser et devenir soi-même des persécuteurs. Alors je termine en disant qu'on peut peut-être aussi être proactif après avoir endossé, encaissé bien des choses. Peut-être qu'on peut inverser la vapeur et devenir des supporters les uns pour les autres. Éphésiens 4, 2 nous encourage à nous supporter avec humilité, avec douceur, patience, amour. Pour le faire de façon proactive, un supporter c'est quelqu'un qui supporte son équipe, qui encourage les joueurs pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Devenez un supporter. Et je suis sûr qu'il y a des gens auxquels vous pensez actuellement que vous pourrez supporter. La finalité de tout cela, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Est-ce que l'équipe de louange peut peut-être revenir ? Nous voulons terminer par un temps de prière. La finalité de cette expression les uns les autres, c'est la gloire de Dieu, c'est l'honneur de Dieu. C'est au fond l'honneur de l'Évangile parce que nous avons une responsabilité dans notre témoignage collectif pour montrer qui Dieu est réellement, le cœur de Dieu quelque part. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La gloire de Dieu, c'est aussi la présence de Dieu dans l'Église. C'est ce que nous reflétons, ce que nous transmettons, ce que nous communiquons de la part de Dieu pour ce monde qui a tant besoin. On va peut-être rechanter ce chant, si vous voulez bien, sur l'identité. En toi, je sais qui je suis. Et prier après ce chant.
Il m'a libéré.
Celui qui vous attire à lui, c'est lui qui nous a attirés, qui continue de nous parler, de nous interpeller. Reconnaissons que nous avons besoin de son aide, nous avons besoin aussi les uns des autres. Reconnaissons que nous sommes faillibles, imparfaits, mais que sa grâce est toute suffisante et qu'il nous pardonne. Considérons aussi de quelle manière il nous accueille. Cela peut nous aider. Et cela facilite grandement le fait de s'accueillir les uns les autres. Reconnaissons que nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous aimer les uns les autres, mais qu'il nous donne tout ce dont nous avons besoin. Devenons ensemble des supporters les uns des autres. Accueillons-nous réciproquement. Seigneur, je te remercie parce que tu es tout suffisant. Nous avons tout pleinement en toi. Tu as fait grâce, tu nous as pardonné, nous sommes choisis et tu nous aimes, Seigneur. Merci de pouvoir ainsi donner l'expression de cet amour les uns vis-à-vis des autres. Que ton nom soit béni, que ton Église rayonne et manifeste ainsi l'amour de Dieu pour un monde qui en a tant besoin. Merci parce que tu nous interpelles, merci parce que tu nous accueilles. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos cœurs et dans nos vies. Nous voulons te dire merci. Tous ensemble ce matin, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Nous sommes reconnaissants de nous avoir sauvés, pardonnés, réconciliés avec toi. Merci Seigneur de faire de ton Église un témoignage pour ta gloire. Amen. Amen.
Amen. Vous avez de la place encore pour un dernier chant ? Ouais, on célèbre encore la grâce de Dieu. Ton nom est plus grand, on le reprend. C'est parti.
Quand s'effondre autour de moi mes rêves et mes espoirs, tu viens calmer mon âme. Quand l'échec a pris la place, je trouve en toi la tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, je ne craindrai rien. Tu es avec moi,
durant toute cette semaine, que vous puissiez repasser sur votre cœur peut-être là où Dieu vous a interpellé. Vraiment, notre prière, c'est que vous puissiez être encore encouragés tout au long de cette semaine. On vous dit à bientôt.